Ouvrons le Saint-Livre. Dans l'Exode au chapitre 2, il nous est rappelé quelque chose de très important. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Amen. La suite, vous la connaissez certainement. Nous voyons une païenne qui, à cause de sa compassion, va faire quelque chose. Elle a pitié de cet enfant et elle fait quelque chose. Et chaque fois dans la parole de Dieu où vous voyez, et là j'ai pris volontairement l'exemple même d'une païenne, pour que nous comprenions aussi que même chez les païens, il y a des gens qui ont de la compassion. Vous pouvez le tordre comme vous voulez. Et cette femme, à cause de sa compassion, a permis le salut d'une nation. Elle va me dire, oui, mais tout était contrôlé par Dieu. D'accord, mais il n'empêche que Dieu a utilisé la compassion d'une femme païenne pour faire quelque chose. Jésus parle dans la parabole du bon samaritain de deux religieux qui sont passés outre d'un besoin. Pourtant, ils avaient eu la formation et tout ce qu'il faut pour savoir exactement qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut aimer son prochain et Dieu, etc., etc. Mais quand le besoin s'est présenté, ils sont passés outre. Alors qu'il nous est parlé d'un étranger, d'un samaritain qui passait par là et qui a été rempli de compassion. Et à cause de cette compassion, cet homme a pu faire quelque chose. Il y a certainement toute la vie de l'esprit. Et j'articulerai les prochaines réunions sur l'importance de la vie de l'esprit, car sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Ne rêvons pas, ou alors on fait les choses d'une manière intellectuelle, on fait les choses d'une manière sociale. Je parlais des païens qui ont de la compassion, il faut un travail social, et c'est très 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 bien qu'ils le fassent. Mais l'Église, même si elle peut être appelée à faire du social et elle ne peut pas faire autrement, l'Église doit d'abord être remplie du Saint-Esprit et faire les choses vraiment avec cœur. C'est quelque chose d'important, même l'évangélisation, l'édification, la guérison de nos enfants, que les petits soient protégés. Est-ce que c'est important que tous nos enfants soient protégés? Moi, je le crois, et nous pourrions multiplier les exemples. Tout cela ne peut se faire que par l'Église qui est remplie du Saint-Esprit. J'ai pris cet exemple pour vous montrer que même si d'un côté il y a la vie de l'Esprit, il y a les efforts que nous devons fournir pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Alors je vais prendre ce matin un texte que j'ai à cœur depuis quelques jours, parce que c'est dans mon cœur, je crois, quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu. Vous savez, ce matin, le don spirituel, je l'avais reçu, mais je l'avais reçu mot à mot. C'est pas, des fois on a la pensée juste et chacun exprime une pensée, pas tout à fait forcément de la même manière, mais c'est la pensée qui est exprimée dans un don spirituel. Et le don qui a été donné, mais c'est clair, c'était du mot à mot. Et je sais que Dieu appelle dans cette église des hommes, des femmes, un homme, une femme, un jeune, un vieux, qu'importe. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'amour profond pour Dieu. Quand on chante des cantiques aussi profonds que comme celui qu'on vient de chanter, « Je t'offre en sacrifice ma vie », je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Alors dans le livre des Chroniques, au chapitre 13, vous avez un homme intelligent, très intelligent, puisque c'est David, qui malgré ses impairs, malgré ses défauts, comme chacun d'entre nous, c'était un homme intelligent. Qu'est-ce qu'il voulait ? Cet homme, il voulait que la présence de Dieu soit à Jérusalem. Est-ce que c'était une bonne affaire? Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, c'était une bonne idée. Et voilà, Dieu connaît les idées que nous avons. On va lire la première partie de ce texte. Dans une chronique au chapitre 13, on voit cet homme, quand il prend la royauté, il a le souci de ramener l'arche qui représente la présence de Dieu à Jérusalem. Dans les chroniques, on est dans les chroniques là, oui. Bon, c'est bon. C'est ce que j'ai dit, hein, un chronique 13. Non, parce que ce même texte est dans 2 Samuel. David tint conseil avec les chefs des milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons l'arche auprès de nous, l'arche de notre Dieu, regardez bien la suite, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » On reviendra peut-être sur ce verset. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent, sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant, en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Est-ce que c'était bien qu'ils fassent la fête ? Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche de chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Oui, quand la maison de Dieu, quand la présence de Dieu se trouve quelque part, il y a la bénédiction. Et c'est ce que nous voulons, oui ou non? Alors, j'ai entendu dernièrement, même dans des rencontres pastorales, je le dis pour les pasteurs qui m'écoutent, parce que je sais que plusieurs serviteurs de Dieu écoutent les prédications, quelque chose qui est vraiment faux. On part du principe où, à partir du moment où un projet est bon, la façon dont on va faire, ça n'a pas d'importance, Dieu le bénira. Vous connaissez le proverbe humain, pas biblique, la fin justifie les moyens. C'est totalement faux. Ça, c'est peut-être vrai en politique politicienne, mais ce n'est pas vrai dans le domaine spirituel. Ce texte est là pour nous prouver que même si un projet a l'aval de Dieu, il va falloir que nous nous préoccupions de la façon dont Dieu veut que nous fassions. Parce que laissez-moi vous dire que l'intention de David était intelligente. On ne s'était pas occupé, vous l'avez lu avec moi, du temps de Saül, on ne s'était pas occupé de ramener l'arche. Pourtant, c'était quelque chose de vital et d'important. Mais Saül, vous connaissez un peu le parcours de Saül, s'il a très bien commencé, il a très, 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 très mal fini. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était un homme charnel, qui faisait les choses d'une manière charnelle, à tel point qu'un jour, il a fait même massacrer 85 pasteurs. Vous rappelez, à Nob, c'est quelque chose d'hallucinant quand on se rend compte que c'était un homme de Dieu, qui a perdu les boulons, qui a complètement, perdu les pédales, comme on dit, l'orgueil, il a voulu faire les choses par ses propres forces. Saül représente vraiment l'homme charnel, un homme qui veut faire les choses à sa façon. Et le résultat, vous avez vu, je parle de ces 85 sacrificateurs qu'il a fait tuer, et leur famille. Je ne sais pas si nous nous rendons compte le mal parfois que l'on peut faire quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Saül représente la chair, et la chair ne peut pas faire que nous allons vouloir ramener la présence de Dieu dans l'Église. Nous allons nous contenter de la religion, de la possibilité de quand même de lui plaire. Quand vous lisez les parcours d'avant, on voit que Saül, bon, même s'il était charnel, il a essayé d'invoquer Dieu, il a essayé de plaire à Dieu, mais tout ça, ça n'a pas ramené la présence de Dieu à Jérusalem, croyez-moi. On ne s'en est pas occupé du temps de Saül. Je nous pose la question, sincèrement, très sincèrement, est-ce que nous voulons nous occuper de ramener la présence de Dieu dans l'Église. Alors, quelqu'un aura vite fait de dire, parce que ça me le dira, je le sais, « Monsieur Hugo, Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Oui, mais ça ne l'oblige pas à agir. Moi, je crois que Jésus est au milieu de nous. Il l'a promis, c'est incontournable, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on le croit, qu'on ne le croit pas. Dès que deux chrétiens sont assemblés au nom de Jésus, il est là. Mais ce n'est pas parce qu'il est là qu'il va agir. Et il nous voit, il voit nos cœurs. Comme disait si bien notre frère Sinarindi ce matin, qu'on prie à haute voix, qu'on prie intérieurement, Dieu voit vraiment le fond de notre cœur, comment on est ou pas reconnaissant. Dieu le sait. Oui, Dieu est au milieu de nous. Et on peut prêcher pendant 6 mois sur la présence de Dieu sans s'arrêter, on se relaie à tour de rôle, une dizaine d'anciens, ça ne va pas obliger Dieu à manifester sa présence, parce qu'on parlerait de sa présence pendant 6 mois sans s'arrêter. Ne nous leurrons pas. La preuve, c'est que David, qui était un homme intelligent, vraiment intelligent, il faut dire les choses comme c'est écrit, c'était un homme intelligent, mais l'intelligence, c'est bien. Et que Dieu nous accorde de l'intelligence, et que Dieu nous accorde de réfléchir à ce qui nous manque. Parce que peut-être vous, ça va être la sagesse, moi, ça va être peut-être l'intelligence. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous. Est-ce que quelqu'un connaît la suite? Simplement et sans reproche. Ça ne vous rassure pas? Parce que nous pourrions nous faire des reproches parfois. Oui, j'ai manqué de sagesse, j'ai manqué d'intelligence, j'ai manqué de compassion, et les choses ne se sont pas faites. Dieu donne simplement et sans reproche. Donc nous devons déjà commencer par demander à Dieu qu'il nous donne ce qui nous manque. Ça, c'est quelque chose peut-être qui se reçoit dans la présence de Dieu. Quand on voit la fille de Pharaon qui avait de la compassion, je crois que si des païens ont de la compassion, je crois que nous, les chrétiens, nous devrions tenir un peu, prendre un peu de la graine et dire « Mais donne-moi, Seigneur, de la compassion. » Parce que sans la compassion, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. On peut avoir de bonnes idées, on peut être très sensible. Il y a des gens, ils vont voir un chat écrasé, ils vont pas manger. Vous voyez, mais ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la sensiblerie. Ça ne sert à rien, ça. Je veux dire, bon, c'est grave, c'est très grave qu'un chat se fasse écraser. C'est dramatique. Mais moi, je pense que des pécheurs aillent en enfer, c'est quand même beaucoup plus grave. Que nos voisins aillent en enfer, c'est quand même beaucoup plus grave que le petit chat qui s'est fait écraser. Vous êtes d'accord avec moi? Et ne confondons pas la sensiblerie avec la sensibilité. La sensibilité, on peut demander, Seigneur, redonne-moi un cœur sensible. Je me suis endurci, j'ai eu telle épreuve, telle difficulté, tel deuil, et tout ça, je me suis endurci. Et maintenant, je me blinde un peu. Vous savez, des fois, sans s'en rendre compte, on peut s'auto-protéger, mais on peut en perdre la sensibilité. Que Dieu nous donne cette grâce. Quelles que soient les épreuves, David a connu bien, bien, bien des épreuves avant d'obtenir la royauté. Et croyez-moi, la première chose, une des premières choses qu'il a voulu faire, c'est absolument de ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Il a vu les anciens, il a vu les princes, il a vu les responsables. Il a dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?» Bien sûr que tout le monde était absolument d'accord, mais on ne s'en était pas occupé. Ça fait presque pitié de voir que dans le peuple de Dieu, on n'ait pas trouvé un homme qui soit intéressé à ramener la présence de Dieu dans l'Église. Mais aujourd'hui, dans notre pays, je me pose vraiment la question. Qui parmi nous, je parle pas de que l'Assemblée de Saint-Anne, je parle parmi tout le peuple de Dieu, suite au don, parce que le don, je l'avais reçu. Je n'ai pas voulu le donner, parce que je savais que Dieu l'avait donné à quelqu'un d'autre. Je le savais. Mais c'était vraiment conduit. Vous vous rappelez du don? Vous en rappelez? Dieu cherche un homme. Je vous assure, devant Dieu, s'il m'avait fallu l'écrire, j'aurais dû l'écrire. J'aurais dû l'écrire avant. Et je sais que notre sœur qui l'a donné, bon, béni soit le Seigneur, elle aurait certainement été encouragée. Dieu cherche un homme, une femme, une église. Dieu cherche. Vous allez me dire, mais ça y est, elle est toute trouvée. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que le problème, ce n'est pas de vouloir ramener la présence de Dieu, c'est de le faire comme Dieu le veut. Et quand on chante, Sophie, vous voulez bien remettre le cantique, s'il vous plaît, qu'on a pris pour la Sainte-Seine? Quand on chante un cantique comme celui-ci, non, pas celui-là, mais... Voilà, le refrain, s'il vous plaît. Non, c'était le dernier cantique, le dernier. Voilà, mettez le refrain. Voilà, stop. Tu nous appelles à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez chanté? bon, vous l'avez chanté, je l'ai chanté. Nous avons chanté, voilà, merci Sophie, nous avons chanté que Dieu nous appelle à lui offrir notre vie, un sacrifice, c'est-à-dire que toute notre vie lui appartient. Et je ne vous dis pas la honte que j'ai eue dimanche de devoir vous donner ce mauvais témoignage qui me concernait, à savoir combien Dieu m'avait repris sur ma résistance. Si vous étiez là, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Et je vous assure que c'était profondément sérieux, où le Saint-Esprit m'a montré, parce que j'avais regardé un film où il y avait 5 ou 6 mots grossiers dans ce film, où le Saint-Esprit m'a vraiment repris et m'a montré que la résistance était aussi coupable que l'idolâtrie. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous avais même donné le témoignage, l'idée, si vous m'aviez vu dans une table bouddhiste en train de me prosterner, vous auriez dit, mais monsieur Gou, il a pété les boulons, il est malade, oui ou non? Vous n'auriez pas dit ça, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez dit si vous m'aviez vu dans un temple bouddhiste? Mais vous auriez dit, mais il est malade. Eh bien, vous vous rendez compte qu'aux yeux de Dieu, c'est exactement la même chose. La résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Si vous doutez de mes propos, vous lirez dans 1 Samuel 15, 22. Et le Seigneur m'a repris par rapport à ça, parce que je m'étais autorisé à regarder quelque chose, alors que moi, en plus, moi, vous voyez, qui prêche la sainteté, qui prêche la consécration, mais quelle honte! Et j'ai eu honte pendant 8 jours, j'ai eu honte. Mais honte, vous savez, quand vous avez vraiment honte. Et j'ai été poussé, de nouveau, à m'interroger par rapport à ma piété. Et vraiment, c'est cette histoire qui m'a attiré. Et ce matin, je veux la partager avec vous. Parce que cette histoire est là pour nous montrer qu'avoir une intention que Dieu bénisse, c'est excellent. Mais pour que Dieu bénisse, il faut que nous nous appliquions à faire les choses comme il le veut. Dans le livre des Actes, vous vérifierez, je crois que c'est dans Actes chapitre 9 ou 10, 10, 9 ou 11, c'est ça les Actes, que Dieu bénissait l'Église, elle s'accroissait parce qu'elle avait la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que l'Église avait la crainte du Seigneur. Et je nous pose vraiment la question. Avons-nous suffisamment la crainte du Seigneur pour faire ce que le Seigneur nous demande à chacun? À chacun. C'est-à-dire que moi je suis à un certain niveau, vous êtes à un autre niveau, etc. Chacun est à son niveau en fonction des mois de conversion, des années de conversion, des décennies de conversion. Nous avons la possibilité de nous interroger vraiment, comme David l'a fait pendant ces 3 mois où il a été malheureux de voir cette affaire. Vous vous rendez compte, vous voulez ramener la présence de Dieu à Jérusalem, et paf, vous avez un jeune qui est là, qui est tout heureux, et paf, qui meurt sur le coup parce qu'il a touché l'arche de l'Éternel. C'est pas nouveau quand on voit comment Ananias et Saphira sont tombés morts dans le temple, parce qu'eux aussi, ils avaient menti, parce que la présence de Dieu était telle que le péché n'était absolument pas toléré. Aujourd'hui, il y a des églises, les gens vivent dans le péché, ça nous cause comme problème. Pourquoi? Parce que Dieu n'y agit pas. Et nous ne voulons pas que l'indifférence, la tiédeur, c'est la tiédeur à la Odyssée qui a fait que Jésus était dehors. Pourtant, il a écrit à cette église, parce qu'il est omniprésent. Mais en vérité, il ne pouvait pas y entrer, parce qu'on l'avait mis dehors, à cause de la tiédeur. Pour beaucoup de chrétiens, la tiédeur, vous allez dire, oh monsieur, vous, la tiédeur, on ne va pas en faire un plat. Mais oui. Peut-être que vous, ça vous affole pas, mais ça suffit pour mettre le Seigneur dehors d'une église. Et quand on priera, eh bien le Seigneur ne se manifestera pas. Et que personne, en tous les cas ici, j'y tiens, que personne ne dise, c'est ce qui est important, c'est l'intention, c'est le projet, après Dieu bénit, à partir du moment que ça vient de Dieu, Dieu va le bénir. Ce n'est pas vrai. Cette histoire, Dieu l'a voulu. Non pas pour que nous nous moquions de David parce qu'il s'était trompé, malgré son intelligence, parce que l'intelligence de David était réelle. Dieu a dit qu'il avait conduit ce peuple avec des mains intelligentes. Bien sûr, même si on a reçu certains dons, on peut se tromper. Et David, bien sûr, qu'il connaissait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de la parole. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs parmi nous. Est-ce que vous êtes converti depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans? Vous connaissez la Bible, oui ou non? Oui, vous savez que le livre des Proverbes, c'est quand même dans l'Ancien Testament. Je dis ça parce qu'un jour, il y avait un frère qui me dit qu'il lisait la Bible tous les jours. Et je lui ai dit, bon, écoutez, on va lire dans les Proverbes. Il cherchait les Proverbes dans le Nouveau Testament. J'étais pas content du tout. Franchement, au bout de plusieurs années de conversion, je cherchais les Proverbes dans le Nouveau Testament. Moi, j'étais... Enfin, bon. Enfin, tout ça pour vous dire que les années que nous avons de conversion nous ont amenés à connaître la parole de Dieu. David connaissait la parole de Dieu, vous le savez, vu les psaumes qu'il a écrits, mais ce n'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses dans la parole de Dieu que l'on sait exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que nous savons, nous, chrétiens, ce qu'il faut faire pour ramener la présence de Dieu dans l'Église? Est-ce que ça nous préoccupe? Est-ce que ça vous préoccupe? Ou est-ce que nous ne sommes préoccupés que par la bénédiction? Voilà, moi je suis riche, je n'ai besoin de rien, on a tout ce qu'il faut, on est béni, on a un temple, on a le chauffage. Est-ce que c'est bien d'avoir le chauffage? La ventilation, elle y est au fait? Non, je crois pas. C'est bien d'avoir de l'extraction d'air. Merci, Jérémy. C'est une bénédiction. Est-ce que c'est bien d'avoir un temple, d'avoir ce qu'il faut? Est-ce que c'est bien? Mais oui, c'est bien. Et les chrétiens de la Odyssée, c'était certainement appliqué comme nous, mais on s'est appliqué, ce n'est pas du tout péjoratif, à faire en sorte que l'Église soit sérieuse, consciencieuse, ce qu'était David. Mais la question que nous devons vraiment nous poser, c'est ça, individuellement, car si vous avez écouté le deuxième don spirituel, il a quand même également été dit qu'on pouvait faire obstacle à la bénédiction du Seigneur. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que notre comportement peut faire obstacle à la bénédiction de Dieu? Eh oui! C'est pour ça que chacun d'entre nous, nous devons véritablement nous appliquer à avoir une véritable piété. Donc David, je reviens à David, David veut ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. C'est clair que Dieu a mis son veto, croyez-moi, Dieu est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? David n'a pas pris le temps de consulter, ou il a oublié, que l'arche de Dieu, elle ne devait pas être portée sur un char. C'était pas plus compliqué que ça. Alors, certains vont me dire, mais quand même, un char tout neuf. Ah, mais ça, pour trouver des méthodes nouvelles, ça, c'est clair qu'on est pour. Des chars tout neufs. Oui, tout neuf. Non, mais c'est pour ça. Monsieur Olé, ne me piquez pas ma prédication. Un char tout neuf, ça veut dire, ça, moi, pour moi, ça parle aujourd'hui des méthodes toutes nouvelles que l'on veut introduire dans l'Église pour essayer de plaire. On pense qu'avec des chars tout neufs, Dieu va bénir. Avec une musique toute nouvelle, Dieu va bénir. On l'entend ça, on l'entend. Avec des méthodes, je ne vais pas les énumérer, comme ça c'est le mieux. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas avec des méthodes nouvelles, des musiques nouvelles, je dis musique parce que c'est ce qui règne le plus en ce moment, on parle de musique nouvelle pour plaire aux gens. Croyez-moi que la musique, elle soit nouvelle ou qu'elle soit ancienne, le problème il n'est pas là. Le problème, c'est qu'elle soit jouée par des gens spirituels et des gens qui sont vraiment convertis. Ça, c'est important. Alors David, il va ramener personne ne s'est préoccupé de la façon dont on devait porter l'arche. On a fait à la façon des devins étrangers. Car c'était les devins qui avaient donné l'idée aux Philistins, voilà comment il faut porter l'arche, parce qu'eux avaient justement du respect pour l'arche. Les étrangers avaient du respect, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour l'arche. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont du respect que la bénédiction a pu venir sur le village où elle était. Donc, écoutez-moi bien, cette affaire, elle nous montre une chose, c'est que demander que Dieu confirme sa parole, c'est bien. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord quand on dit « Seigneur, guéris Léa parce que tu es capable de la guérir » Est-ce que Dieu est d'accord avec la guérison de Léa? Est-ce que Dieu est d'accord avec la guérison des malades? Est-ce que Dieu est d'accord avec la conversion des pécheurs? Bien sûr, personne ne peut s'opposer à cette pensée, Dieu est d'accord avec le fait que nos enfants et les étrangers et les ennemis soient sauvés. Dieu veut sauver des âmes. Mais je me demande ce que je vais dire n'est pas tout à fait juste. C'est peut-être même pas la peine que nous le lui demandions. Ce qu'on pourrait peut-être lui demander, c'est qu'il nous montre comment nous devons faire pour amener sa présence dans l'Église, parce que l'arche est l'image de la présence. Et je bénis Dieu que notre frère Bruno Lagarde ait entraîné ce cantique sur le fait qu'on soit des sacrificateurs, parce que l'arche devait être portée sur des sacrificateurs. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes à la fois le temple de Dieu et à la fois les sacrificateurs. Et ce cantique était à propos. Et je crois que tout le culte a été conduit pour que nous comprenions bien une certaine pensée, c'est qu'on ne peut pas faire en sorte que la présence de Dieu se manifeste dans l'Église, même si Dieu est présent,
avec des méthodes nouvelles, ça ne marchera pas, même si ça s'appelait aux jeunes, ça plaît aux journalistes, on fait un truc, vous savez, on fait machin, fait une espèce de rassemblement, et puis après, les responsables diront, oh, tu te rends compte, les journalistes, ils ont dit que c'était super et tout. Mais moi, ce n'est pas tellement le point de vue des journalistes qui m'intéresse. Moi, j'aimerais savoir ce que Dieu en pense. Vous voyez, les journalistes, c'était super, on est passé à la télé, c'était génial et tout, tout le monde a dit que c'est bien. Mais c'est sûr que c'est bien, tant qu'on ne prêche pas la repentance, tant qu'on ne prêche pas la conversion, tant qu'on ne dit pas aux pécheurs que ce sont des pécheurs, croyez-moi que c'est bien. De toute façon, on est venu dans un temps où les païens n'en ont rien à faire de l'Église, parce que l'Église ne produit rien dans leur cœur. Vous avez vu, le monde accepte l'homosexualité, et bien dans les églises, et bien on accepte l'homosexualité. On n'a rien à donner à l'Église, en fin de compte, puisqu'on ne reçoit que du monde. Là, c'est une autre parenthèse, mais c'est pour vous dire comment c'est grave. Et mes frères et sœurs, je m'adresse à celui, à celle à qui Dieu a parlé ce matin. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va s'interroger. Ça a pris 3 mois, pendant 3 mois. Bon, c'est vrai qu'il a peut-être vu la bénédiction sur la maison, comment il s'appelle, d'Obed et d'Homme. Il a dû se dire, bon, cet homme, il est béni. Je ne sais pas si c'est ça qui a déterminé la démarche de David. Je crois plutôt que c'était l'intelligence spirituelle. Il voulait vraiment savoir comment il fallait faire. Et il a cherché, et il a trouvé, si je me trompe, dans les nombres, il a trouvé que l'arche devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. Et quand on voit, à partir du chapitre 15, regardez, 1 Chronique chapitre 15, ça a mis 3 mois. Combien de temps faut-il pour que la présence de Dieu revienne dans une église? Combien de temps faut-il pour que l'Esprit Saint puisse se manifester dans une église? Combien de temps il a fallu quand Jésus a dit aux apôtres, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus? Quelqu'un peut me dire le nombre de jours? Combien? 40 jours. 40, 50, la Pentecôte. Il y a eu combien de jours? Vous le vérifierez vous-même. Voyez, combien de temps faut-il pour être baptisé du Saint-Esprit? Combien de temps faut-il pour que... Je ne parle pas parler en langue. Je parle vraiment d'un baptême du Saint-Esprit. Combien de temps faut-il? Puisque Jésus a dit, voici ce matin, je lisais, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Donc, croire, c'est plus que d'adhérer intellectuellement. Croire, c'est vraiment obéir. Il y a des gens qui disent, mais voilà, je crois en Dieu, Dieu va bénir. Non, croire dans la Bible, c'est vraiment recevoir la pensée du Seigneur. Alors, dans 1 Chronique 15, on voit la fin de cette histoire. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dessa pour elle une tente. Je vous ferai remarquer le fait qu'il ait été blessé, le fait qu'il ait été malheureux, ne l'a pas empêché de commencer à réfléchir. Il y a des gens, dès qu'ils sont blessés, dès qu'ils sont malheureux, ah ben si c'est ça, on ne fait plus rien, on ne voit pas la gloire de Dieu. Eh ben c'est... Non, mes frères et sœurs. Les gens intelligents, ils s'arrêtent et ils se mettent à chercher Dieu. Et ils disent, Seigneur, montre-moi, parce que s'il y a un problème, ce n'est pas de ton côté. Vous en êtes persuadé. S'il y a un problème, laissez-moi vous dire que c'est jamais du côté de Dieu. S'il y a un problème, c'est toujours du côté de l'homme. Toujours. Et David, c'est pour ça qu'il est intelligent, il prépare une place pour l'arche. Verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et en faire le service à toujours. Verset 12. Il leur dit, vous êtes des chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous. Ce qui ne s'était pas fait la première fois. Vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, parce que nous ne l'avons pas cherché, selon la loi. Et bien sûr, il y a la bénédiction de Dieu. Et au verset 26, il y a l'explication. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on a besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Pour avoir l'assistance du Saint-Esprit, il faut dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce qui empêche que ta présence se manifeste dans l'assemblée où tu m'as placé? Voyez, moi, j'étais le premier à être éclairé, enfin, le premier, je ne vais pas être éclairé, mais à comprendre aussi que je pouvais, moi, le pasteur de l'Église, résister à Dieu. J'en ai honte, je vous le dis, parce que je n'ai pas l'habitude de cacher les trucs. Mais quelle honte j'ai eue! Quelle honte j'ai eue! Quand le Saint-Esprit m'a dit, mais tu me résistes. Tu me résistes. Et c'est aussi coupable que l'idolâtrie. Et Nous voulons que Dieu marche au milieu de nous. Alors, les textes sont infinis dans la Bible. Justement, comme là, il fallait que, oui, c'est des détails, des anneaux, mettre des barres dans des anneaux. Les détails, les gens s'en fichent aujourd'hui. Les chrétiens, ils n'en ont rien à faire des détails. Il s'agit que Dieu me bénisse, il s'agit que Dieu me protège, il s'agit que j'ai un bon boulot. Seigneur, protège-moi, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi. Mais bien sûr que Dieu le fera, ça. Est-ce que Dieu est un père qui protège ses enfants? Mais Dieu ne veut pas que bénir, protéger, guérir de temps en temps. Dieu veut que les gens se convertissent et se repentent par la puissance du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, j'ai presque envie de dire, ne le prenez pas pour argent comptant, mais par hasard, lisez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Et je dis par hasard, dans le sens, il y a tellement de textes qui nous enseignent comment nous devons offrir nos vies en sacrifice. Parce que je le répète, nous sommes le temple du Dieu vivant et nous sommes les sacrificateurs. Donc, ça vaut la peine de réfléchir. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, j'ai souvent parlé ou introduit des prédications sur le verset 1er, où Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et je crois que c'est ce qui s'est souvent passé. Nous avons reçu, ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de faire comme David, de nous asseoir et de dire, mais qu'est-ce qui empêche la bénédiction de Dieu de passer au travers de ma vie? 2 Corinthiens chapitre 6, on va lire à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin, nous, de s'entendre dire, comme les chrétiens de l'Odyssée, je suis dehors et je frappe. Ça serait terrible. Moi, j'ai peur qu'un jour, le Seigneur nous fasse ce reproche si nous ne nous ressaisissons pas, si nous ne nous accaparons pas de ces choses, qu'un jour, Dieu nous dise, mais je frappe dehors, vous n'entendez même pas. Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà, ça c'est une promesse. Pour que cette promesse s'accomplisse, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et de nouveau une promesse, et je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors si vous en voulez, je peux très très humblement vous donner 20, 30 textes qui sont dans mon cœur, en plus moi je les connais, qui nous indiquent comment nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde, comment nous devons absolument nous appliquer. Si nous sommes de véritables chrétiens, si nous voulons que cette promesse que Jésus a faite et qu'il n'a pas changé d'avis, ne soyez pas comme cette chrétienne un jour qui vivait avec un gars sans être mariée, qui vivait dans le concubinage, et je lui ai dit, mais vous savez, vous êtes dans le péché. Oh, me dit non, monsieur Go, ne vous tracassez pas, ne vous faites pas du souci pour moi. Moi, je pense que Dieu a changé d'avis et qu'on peut vivre dans le concubinage. Je lui ai dit, mais bien sûr, j'en ai pleuré, je vous le dis, j'en ai pleuré, parce que cette fille vraiment a abandonné Dieu. Mais voilà, elle était convaincue que Dieu pouvait changer d'avis. Alors j'ai le regret de vous dire que Jésus-Christ ne change pas d'avis. Il est le véritable et le fidèle, il ne change pas. Et s'il dit qu'il l'habitera et qu'il marchera au milieu de nous, c'est ce qu'il veut faire. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche une église où les gens véritablement vont se consacrer, vont se sanctifier. Ça c'est pas bon, je ne le regarde pas. Ça c'est une émission, acceptable, je peux la regarder. Je crois que si nous manquons de sagesse, demandons-le au Seigneur. Demandons, est-ce que Dieu peut nous éclairer? Moi, je vous assure, j'ai demandé au Seigneur. Je lui ai demandé. Vous voyez, j'en ai honte en même temps parce que je suis votre pasteur depuis 15 ans et je suis obligé de vous dire que j'ai résisté à Dieu. Moi, le premier, le pasteur de l'Église, pasteur des fois, monsieur Go, eh bien, monsieur Go, il n'est pas meilleur que vous. Parce que j'ai résisté à Dieu et j'en ai vraiment honte. Pour regarder une enquête qui était super en plus, mais qui a fait que j'ai méprisé et j'ai éteint le Saint-Esprit dans mon esprit. Et moi, je voudrais vraiment que je ne veux pas être que béni, je ne veux pas être que protégé, je ne veux pas avoir qu'une bonne assemblée qui donne de l'argent pour payer des églises au Burundi. Moi, je voudrais que nous puissions voir le Saint-Esprit se manifester dans l'Église. Et que nous puissions dire, voilà, Seigneur, de quoi je dois sortir? De quoi je dois me séparer? De quoi je dois faire gaffe afin de ne pas me souiller? Est-ce que ça, c'est bon? Chacun doit le demander au Seigneur. Ce n'est pas à moi de vous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça, n'allez pas là, n'allez pas là. Franchement, je crois que là, on tombe dans la secte. Je crois que vraiment, chacun d'entre nous, avec conviction, doit savoir ce qu'il faut faire. Hier, il y a une sœur qui m'appelait de je ne sais plus où et qui me dit, voilà, monsieur Gauche, j'ai besoin d'un conseil. Je dis, écoutez, ma sœur. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Cherchez-le dans la parole. Parce qu'il est écrit que chacun a en son esprit une pleine conviction. Et je crois qu'on est de véritables chrétiens, non pas quand on vit avec la conviction des autres, mais quand on vit avec ses propres convictions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Moi, le Seigneur m'a montré certaines choses. Je ne vous les dis pas pour pas que vous pensiez d'ailleurs que je vous demande indirectement de ne pas les faire. Je crois que le Saint-Esprit est assez puissant pour montrer à chacun ce qui souille l'œuvre de Dieu, ce qui salit l'œuvre de Dieu, ce qui fait obstacle à la bénédiction du Seigneur. Mais moi, si je suis simple et logique, et quand j'entends, et je vous assure, j'avais reçu le même don, mais vraiment, mot pour mot. Si Dieu cherche un homme, c'est parce que Dieu veut bénir l'Église. Vous entendez, mes frères et sœurs? Si Dieu cherche une femme, c'est que Dieu veut bénir l'Église. Mais ce n'est pas parce que nous ressemblerions même à David avec une intelligence super spirituelle. Si nous ne faisons pas d'après ce que la Bible nous enseigne, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Nous verrons, hélas, ce que nous voyons depuis longtemps. Nous voyons plein de jeunes, entre guillemets, mourir spirituellement. Ils meurent peut-être pas physiquement, merci Seigneur. Mais combien de gens ont pris le baptême et sont rétrogrades aujourd'hui? Moi, dans ma famille, à part mon père, je crois, et une de mes sœurs, tout le monde est rétrograde. Ça me brise le cœur. Quand on voit des gens prendre le baptême, eh bien, ils sont morts. Ils sont morts en essayant de porter l'arche ou pas, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, Dieu, on peut le bénir, comme disait Jeanson dans les chants, on peut le bénir pour les deux ou trois trucs importants qu'il a fait dans notre vie. Mais je pense qu'on peut aussi le bénir pour ce qu'il pourrait faire si nous nous mettions à lui obéir. Pas les deux ou trois grands trucs, mais plein de choses. Est-ce que Dieu peut faire de grandes choses? Oui, mes frères et sœurs, je vous assure, ce message, il m'a été imposé. Il y a des messages, je les prépare, tout ça, je les écris, etc. J'ai besoin de les écrire, etc. Celui-là, je peux vous dire que je n'avais pas besoin de l'écrire. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu que nous travaillions avec l'assistance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous assistera et nous n'aurons pas besoin de demander, bien sûr on pourra le faire parce que c'est biblique, de demander des guérisons, etc. Est-ce que les apôtres ont demandé des guérisons? Est-ce qu'ils ont demandé? C'est dans Acte 4, je crois, ils ont dit, mais donne de l'assurance à tes serviteurs afin qu'il se passe des prodiges, des miracles. Moi, je crois qu'on peut demander cela. Mais mes frères et sœurs, avant de demander peut-être ces choses, demandons au Seigneur ce qui empêche la bénédiction de venir sur l'Église. Et si nous le faisons chacun, si chacun d'entre nous, mais vraiment, joyeusement, pas avec le cafard, joyeusement, parce que je crois que c'est une grâce, de s'enquérir à ramener la présence de Dieu dans l'Église. Si humblement, je répète, joyeusement, nous nous mettons à dire, voilà, Seigneur, je suis ton enfant. Heureux êtes-vous si vous êtes un enfant de Dieu. Je suis sauvé, merci Seigneur, mais je ne veux pas que m'occuper que de mon salut. Je voudrais, quand je passerai devant toi, avoir la joie d'avoir été un instrument de bénédiction pour tous les autres. Seigneur, montre-moi, Seigneur, je manque de sagesse. Dieu veut vous la donner, sans reproche. Je manque d'intelligence, je manque de piété, je manque de compassion. Quand je vois une païenne qui a eu de la compassion, et grâce à elle, elle a sauvé une nation, j'abrège, mais c'est quand même ça. Seigneur, alors moi qui suis ton enfant, redonne-moi de la compassion. Éclaire-moi, Seigneur. C'est peut-être la chose qu'il faut demander. Donne-moi, Seigneur, du collyre pour oindre mes yeux, afin que je voie exactement la situation spirituelle dans laquelle je me trouve. Est-ce qu'il y a un homme, puisque c'était un appel de Dieu, une femme ce matin, qui peut répondre? Est-ce qu'il y a un sacrificateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit? Car nous sommes tous là, qui va dire, Seigneur, je veux avec joie m'approcher de toi, vraiment d'un cœur sincère. Je veux t'offrir ma vie en sacrifice. Je l'ai chanté, oui. Je l'ai chanté, les mélodies sont merveilleuses. Mais il n'y a pas que la mélodie, il y a la vérité. Quand Paul dit, offrez, je vous exhorte par les compassions de Dieu. On en revient toujours à la compassion. Parce que sans amour, tout ce qu'on verra, ça ne servira à rien. Mais par amour, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. D'ailleurs, ces cantiques sont tirés de la Bible. Un sacrifice vivant, qu'est-ce qu'il a dit après? Saint agréable à Dieu. C'est sûr que quand c'est vivant et sain, laissez-moi vous dire que c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte ou un culte acceptable ou un culte intelligent. Est-ce que vous savez ce qui est écrit après? Allez, les stagiaires. Tu dois le savoir. Jérémie, si tu ne le sais pas, tu n'es pas reconnu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu seras quand même reconnu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne suffit pas d'offrir sa vie en sacrifice. Il suffit de ne pas se conformer aussi au monde, aux choses du monde, afin qu'elles ne nous ferment pas les yeux, parce que je crois que quand quelqu'un offre sa vie en sacrifice et qu'il ne se conforme pas au siècle présent, mes frères et sœurs, nous discernons la volonté de Dieu. Et je crois qu'il n'y aura rien de plus beau quand on passera devant le Maître, devant notre Seigneur. Je ne sais pas si vous y pensez à ce moment, mais moi j'y pense. Ce moment où nous passerons devant Dieu. Moi, je n'ai pas envie d'entendre « Retire-toi de moi, je ne te connais pas ». Moi, je préfère entendre « Entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment dire « Mais c'est vrai, on va s'occuper, on s'en est pas occupé, je m'en suis pas occupé, comme du temps de Saül, parce que j'étais charnel, et je me mets dans le lot, sérieusement ». Mais qui ce matin, dans son cœur, peut répondre à Jésus? On ferme les yeux. Qui peut répondre à Jésus? Simplement, peut-être que vous avez vraiment compris quelque chose au travers de cette prédication, que Dieu vous a interpellé, que Dieu vous a repris, que Dieu vous a montré ce qu'il manquait. Cette compassion qui empêche d'aider les blessés dans l'Église. Cet amour qui empêche, ce manque d'amour qui empêche cette bénédiction sur les chrétiens même. Ce manque de sagesse, ce manque de lucidité. Si David s'est fait piéger, ne pensons pas un instant que nous ne nous ferons pas piéger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à répondre? Seigneur Jésus, dans votre cœur, répondez-lui. C'est lui qui doit entendre. Croyez-moi, il voit tout, il sait tout. Comment répondez-vous à cette prédication? Sérieusement, mon frère, ma sœur, même les nouveaux, parce que Dieu peut prendre un pécheur, en faire un de ses enfants et en faire un serviteur. Il n'y a pas besoin que des milliers d'années passent pour être prêt. Que répondez-vous à cette prédication? Sincèrement, que répondez-vous? Répondez-lui à lui, dans votre cœur. Je ne veux pas entendre de voix, bien sûr. C'est trop important, c'est entre vous et Dieu. Suite à la prédication, suite au don spirituel, suite à ce cantique, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. C'était bien qu'on chante ce cœur. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un sacrificateur. Dieu dit qu'il veut marcher, habiter au milieu de nous, mais il le fera. Si, puisque celui qui nous appelait est saint, nous sommes saints dans toute notre conduite. Alors prions quelques instants, simplement. Prions quelques instants. Et on chantera après ce cœur pour terminer. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Je demanderai à Jean-Son de venir à ma place et de terminer. Que Dieu nous enseigne à le réécouter. Notre Père, notre Dieu, nous croyons que tu veux marcher et habiter au milieu de ton peuple. Nous le croyons parce que tu le dis. Et nous savons que la tiédeur, l'indifférence peut te mettre dehors. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous et nous voulons que tu bénisses l'Assemblée. Parce que nous voulons plus qu'une bénédiction personnelle, nous voudrions être rempli du Saint-Esprit, pour être assisté de ton Esprit, dans tout ce que nous aurons à faire. Seigneur, nous te demandons pardon du fond du cœur, pour toutes les fois où nous t'avons empêché d'agir, pour toutes les fois où, comme David, nous avons voulu ramener ta présence avec nos méthodes à nous. Seigneur, nous te demandons, je te demande pardon. Je sais que tu es un Dieu qui pardonne et tu es un Dieu qui nous montre les choses. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de ne pas nous souiller, de ne pas regarder des choses sales, de savoir sortir des endroits où on n'a pas notre place. Seigneur, éclaire-nous. Oui, nous voulons tous acheter un collyre pour que nos yeux soient oints sur ce que tu as à nous montrer. Nous croyons que tu vas nous aider, Seigneur. Tu l'as dit également que tu étais notre aide. Alors, tous nous réclamons ton aide pour que ton œuvre se fasse dans l'Assemblée, pour que tout à nouveau, nous puissions voir ce que tu veux nous faire voir. Car nous croyons que toutes les petites Léas qui viendront, tu veux les guérir. Que tous les malades, les aveugles, les estropiés, tu veux les guérir. Que tu veux montrer dans ce monde de ténèbres ta lumière. Et même si les ténèbres s'épaississent, nous croyons que ta lumière peut briller comme jamais elle n'a brillé dans l'humanité. Seigneur, oui, tu nous as dit que tu cherches un homme, une femme. Trouve ce matin dans ce lieu un homme, une femme qui vont se lever vraiment pour être ce sacrificateur et ce temple du Saint-Esprit qui amènera la bénédiction sur les autres. Nous te remercions, Seigneur. Enseigne-nous, oui. Enseigne-nous à t'écouter. Seigneur, après t'avoir parlé, enseigne-nous à t'écouter. Que ton nom soit béni. Amen.